Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois experts, deux pour l'instant, le troisième va arriver. Nathalie Janson, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
Isabelle Job-Bazir, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et Sylvain Aurébi, président d'Orientis, va nous rejoindre dans quelques instants. On va commencer sans lui. Je sais pourtant qu'il était très très partant pour le premier sujet. On va parler de Bruno Le Maire, qui refuse de céder à la facilité en matière de hausse d'impôts. Dans le journal Les Échos, ce matin, il explique que 10% des contribuables paie déjà les trois quarts de l'impôt sur le revenu et il confirme donc qu'il n'y aura pas de hausse. Le ministre de l'économie veut clore le débat. Soyons clairs, Nathalie Janson, est-ce qu'il va réellement clore le débat, sachant qu'il faut trouver 30 milliards d'euros d'économies sur deux ans et que si on n'y arrive pas, il faudra forcément augmenter les recettes?
Là, je pense qu'il fait du wishful thinking, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye de... Enfin, il veut... rester dans ses bottes dans la mesure où il a effectivement le président en plus l'a mandaté pour qu'on dise qu'il n'y a pas de hausse d'impôts. Effectivement, la situation un peu compliquée dans laquelle se trouve le gouvernement, c'est que depuis le début, on n'a pas de réelle stratégie quant à savoir ce que doit faire l'État ou doit pas faire l'État. On voit très bien qu'en France, on a un problème de positionnement de ce que doit faire l'État.
On a plutôt tendance à vouloir beaucoup, à attendre beaucoup de
Exactement.
L'État.
Exactement. Et donc, si on voulait vraiment aller vers une stratégie où, franchement, on va envisager des dépenses ou, en tout cas, un redéploiement de l'action publique, il faudrait se pencher sur, effectivement, les priorités d'action. Donc, vraiment faire un vrai travail de la mission de l'État. Or, c'est pas au programme. Donc, c'est là où, en fait, on a un petit peu de mal à croire quand même Bruno Le Maire parce qu'on se dit, bon, alors... Ça veut dire qu'il prolonge l'État tel qu'il est aujourd'hui, le gouvernement, avec ses actions diverses et variées. Bon, on a bien compris qu'il y avait la fin du quoi qu'il en coûte, même si parfois on a encore du mal à croire sur tous les points. Mais en tout cas, c'est le message. Et on se dit, oui, mais alors il va aller les chercher où, ces recettes supplémentaires, étant donné que la croissance, on n'a pas, visiblement, il n'y a pas de miracle à attendre du côté de la croissance. Donc là, effectivement, on ne peut pas se dire qu'il aura des recettes mystérieuses, miraculeuses, qui vont lui faciliter la tâche. Et donc, on se dit que lorsqu'il va regarder dans les dépenses, ben, on se demande où, puisque on est submergé par les injonctions contradictoires du gouvernement.
En tout cas, pour l'instant, la politique officielle, c'est de regarder la liste des dépenses et d'essayer de faire des coupes. On a l'impression, Isabelle, que c'est un peu le concours Lépine des mesures d'économie. Je reprends les mots de Clément Beaune. On a d'abord, évidemment, la nouvelle réforme qui s'annonce de l'assurance chômage, la question du jour de carence, l'Agirc-Arrco. Le gouvernement aimerait un petit peu piocher dans la caisse. Pour l'instant, ça, c'est la stratégie officielle. On va réduire les dépenses.
Alors, oui, enfin, de toute façon, ce que l'on voit et ce qui a été très bien dit par Nathalie, c'est que pour l'instant, voilà, on va plutôt faire raboter un peu partout. Hein. On cherche un peu à faire des économies. C'est vrai que non hausse d'impôts, c'est un marqueur du mandat d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y est attaché et qu'ils vont éviter à tout prix, effectivement, d'avoir ces hausses d'impôts, même si on peut en avoir certaines cachées. Hein. S'il suffit que vous rogniez sur une niche fiscale, etc., pour que ça soit, en fait, une hausse d'impôts masquée. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de raboter sans vraiment avoir de stratégie. Et j'aimerais attirer l'attention, c'est que pour l'instant on cherche ces 30 milliards d'économies en total sur deux ans, c'est juste pour revenir dans les clous de la trajectoire budgétaire qu'on a décidé.
On commence pas à se désendetter.
Alors déjà, non, mais c'est simplement, on se dégage pas des marges de manœuvre. Ouais. pour des enjeux majeurs que sont la lutte contre le réchauffement climatique, la décarbonation de l'économie, etc. Les investissements numériques, on va parler d'industrie, de réindustrialisation, etc.
On va en parler, oui.
Donc, voilà, c'est simplement pour se remettre dans les clous sans se dégager des marges de manœuvre. Et effectivement, se dégager des marges de manœuvre, ça demande de revoir ses priorités et d'avoir une vraie stratégie budgétaire de long terme pour justement se dégager ces marges de manœuvre.
On accueille Sylvain Aurebi, président d'Orientis, qui a fini par nous rejoindre. Bonjour Sylvain.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Quand Bruno Le Maire dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de jouer sur les mots, de respecter la parole présidentielle? Il suffit de regarder ce qu'a commandé le Premier ministre, Gabriel Attal. Il veut un rapport sur la taxation des rentes. On parle bien d'une autre forme d'impôt.
Alors, déjà, il suffit de regarder ce qu'a fait Bruno Le Maire depuis 7 ans pour se rendre compte qu'il n'est pas fan des hausses d'impôts et qu'il a toujours respecté la stabilité fiscale. Donc, il me semble que ça va continuer. Je ne crois pas que ce soit dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter les impôts. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de hausse d'impôts, ni visible, ni caché.
Mais il ne le souhaite pas. Mais est-ce que le gouvernement ne va pas être contraint, finalement, d'augmenter les recettes, donc les impôts
énorme. Ben, c'est une attitude un peu paresseuse d'augmenter les impôts.
C'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin.
Absolument. Et je trouve que c'est très paresseux et c'est pas vertueux. Et ça ne correspond pas à ce qu'a fait l'économie française depuis quelques années est dû principalement d'abord à la baisse des impôts et ensuite à la stabilité fiscale. Et je ne crois pas que ce soit bon pour l'économie aujourd'hui de repartir sur une hausse d'impôts. Vous parlez de Gabriel Attal et vous dites qu'il réfléchit à taxer les rentes. C'est pas comme ça que je le lis. J'entends qu'il prépare une mission. Attention, c'est comme les commissions à l'époque. Ah oui. C'est une mission de la majorité,
oui, c'est la majorité
pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, ça me rappelle un peu Coluche. Eh bien, ça, c'est de la câlinothérapie à l'intérieur de la majorité. Chaque tendance de la majorité va donner ses idées et à la fin, on ne fera rien. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est juste une façon de ressouder sa majorité et de montrer aux oppositions que le gouvernement réfléchit à toutes les solutions, que le gouvernement agit contrairement aux oppositions. Enfin, moi, je crois que le message de Gabriel Attal sur les rentes est un message politique.
Alors, Isabelle. Je crois qu'il y a effectivement probablement un message politique, mais je crois qu'il y a une surprise négative dans le budget, à savoir la contribution exceptionnelle sur la rente des énergéticiens, qui n'a pas été à la hauteur des attentes, et c'est même, je crois, quasiment 10 fois moins que ce qui était attendu, et donc ça a fait défaut en termes de recettes, parce qu'en fait, la dérive budgétaire que l'on connaît, c'est pas un problème de dépenses. Les dépenses ont été plutôt bien tenues, enfin augmenté moins vite que le PIB. En revanche,
c'est que les recettes n'ont pas été à la hauteur.
Les recettes n'ont pas été à la hauteur. Alors même, mais je pense que ça a été une mauvaise anticipation. C'est-à-dire pendant quelques années, on a eu des recettes qui allaient plus vite que l'activité, que le PIB. On avait une élasticité supérieure à 1 des recettes. On s'était bien dit qu'on allait revenir à 1, mais on savait pas qu'on allait passer. Enfin, ils ont mal anticipé le fait qu'on allait passer par quelque chose où ça allait être où les recettes allaient aller moins vite que le PIB. C'est-à-dire que pour revenir un peu sur cette tendance de long terme. Et donc c'est ce défaut et c'est peut-être cette rente-là, ils comprennent pas bien pourquoi il y a pas eu ces recettes n'ont pas été au rendez-vous. Donc je pense qu'ils vont probablement une partie de la mission est aussi sur ce sujet.
Nathalie, vous êtes d'accord avec Sylvain qui parle de câlinothérapie quand on évoque ce rapport commandé par Gabriel Attal sur la taxation des rentes?
Oui,
on sait réellement qu'il en sortira rien.
Je pense que de toute façon, ça va être, c'est effectivement un bon moyen de calmer. Enfin voilà, il a bien appris chez les meilleurs papes du management, peut-être, de faire comme si on écoutait sans écouter, c'est-à-dire que vous commandez un rapport. Ça, vous écoutez tout le monde, puis après vous allez décider ce que vous voulez, mais au moins vous aurez écouté ce qu'on vous dit. Donc voilà, il a bien entendu qu'il fallait faire du bottom up. C'est comme ça, on a l'impression qu'on a écouté les autres. Maintenant, est-ce qu'il va en plus, je ne vois pas de quelle rente. Enfin, je veux dire, c'est quoi les rentes aujourd'hui? Alors effectivement,
c'est la question, voilà, justement. Est-ce qu'il va taxer les revenus du capital? Oui. Donc ça peut être par exemple un relèvement de la flat tax. Est-ce qu'il peut envisager de taxer davantage l'immobilier, en particulier les locations régions meublées saisonnières qui sont
ça serait pas une mauvaise idée.
Je ne suis pas certaine. Enfin, s'il veut vraiment, effectivement, ça serait assez facile et tout le monde serait relativement d'accord pour sur l'immobilier.
Enfin, sauf ceux qui louent leur logement.
Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Sauf que en fait, le marché de l'immobilier est déjà tellement compliqué pour toutes les raisons qu'on sait, les normes, la protection des locataires. Enfin, plein de mesures qui sont très compliquées, que ce serait une très mauvaise idée. Parce que ça chasserait encore plus, ça serait un effet repoussoir pour ceux qui voudraient y investir.
Bruno Le Maire répondait également au président délégué du Conseil d'analyse économique, qui disait en début de semaine que l'hypermobilité des grandes fortunes avait été largement exagérée, puisque généralement, quand on parle de relever les impôts pour les plus riches, la phrase d'après, c'est de dire « mais ils vont s'enfuir à l'étranger ». Qu'est-ce qui s'est passé quand François Hollande a créé une tranche d'impôt à 75%, il y a eu quelques exodes, mais tout le monde n'est pas parti en masse.
Non, je crois pas qu'il y a eu des exodes en masse, hein, mais il y a eu quand même. Il y a eu quand même des départs.
Après, il y a le prisme déformant des médias. On a parlé de ceux qui partaient, on n'a pas parlé de ceux qui restaient.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, une fois qu'on a arrêté, en fait, de taxer les plus riches, hein, enfin l'ISF, on a eu moins de départs. C'est aussi, on a pu le mesurer de cette manière-là. Mais moi, j'aimerais revenir quand même sur cette idée. Ne pas remonter les impôts, très bien. Mais c'est quoi la stratégie derrière? Il faut vraiment, à ce moment-là, se dire de prendre le problème à bras-le-corps. C'est vrai qu'on a un poids des prélèvements obligatoires qui est le plus élevé d'Europe, mais on a aussi le poids des dépenses qui est le plus élevé. C'est comment on s'attaque à ces dépenses, à l'efficacité, surtout en se posant la question de l'efficacité des dépenses, de manière à effectivement, comme je disais, revenir et se redonner des marges de manœuvre pour investir dans l'avenir. On en a besoin.
J'aimerais qu'on parle aussi de l'imposition des entreprises. Bruno Le Maire en parle. Il dit que, là encore, on a fait beaucoup de choses pour taxer les plus riches, donc les géants du numérique, les multinationales. Quid des PME et des industriels en France, Sylvain? Il y a un truc qui s'appelle la CVAE. Je sais que c'est le dada de Nicolas Dose.
Oui,
les impôts
le
de production. Est-ce que vous pensez que ça va être remis en cause, la disparition de la CVAE en 2027?
Alors non, je répondrai d'abord sur la première question. Est-ce que ça a fait fuir des gens? Peut-être pas beaucoup. Mais en termes d'affichage, le fait d'avoir une imposition raisonnable rend une meilleure attractivité en France. De même, sur l'impôt des entreprises, on est aujourd'hui à un impôt sur les sociétés qui est à 25%, qui est dans la moyenne à peu près européenne, ce qui est normal et ce qui est bien. Les entreprises sont moins taxées que précédemment. Les impôts de production ont baissé. Alors, ils ne baissent pas suffisamment, puisque justement, on a reporté la baisse de la CVAE, entre autres. Et je le déplore, parce que je pense que la baisse de ces impôts de production a été un des facteurs qui ont permis à l'économie française d'être plus compétitive. Il faut continuer, parce que les entreprises, encore une fois, les impôts qu'elles ne payent pas, elles l'investissent. C'est vraiment de l'investissement qui est productif et qui crée de l'emploi. Et ce qui se passe depuis 7 ans, ça a commencé avec le CICE à l'époque de François Hollande, puis, enfin François Hollande et d'ailleurs Emmanuel Macron
qui était aux commandes.
Ça a commencé en 2015, ça s'est poursuivi par la suite. Et les bons résultats de l'économie française, parce qu'il faut quand même dire que depuis quelques années, l'économie française par rapport aux Européens a des bons résultats, et bien les bons résultats, ils sont dus à cette baisse d'impôts de production, et j'espère, et je le redis chaque fois que je suis ici, qu'il n'y aura pas d'interruption de cette baisse des impôts de production. Je pense que c'est majeur, à la fois pour les entreprises françaises et pour l'attractivité du pays, d'arrêter de taxer les entreprises sur des profits qu'elles n'ont pas encore réalisés.
On va parler des entreprises dans un instant avec la réindustrialisation. D'abord, une dernière question qui s'adresse à tous. On sent une certaine fébrilité au sommet de l'État avec les agences de notation. Dans 15 jours, 3 semaines pratiquement, on aura la décision de Fitch et de Moody's sur la note de la France. Et fin mai, ce sera au tour de S&P. Vous pensez que, Nathalie, qu'on a un risque de dégradation?
Oui, il est possible, puisque comme il n'y a pas de... Enfin, on ne voit pas d'embellie sur... les 30 milliards, on ne sait pas où elles sont.
Je vous pose la question différemment. Quand Bruno Le Maire s'exprime ce matin, est-ce qu'il pense surtout aux agences de notation?
Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que je pense que la stabilité, comme l'a bien expliqué Sylvain, contribue à la bonne réputation de la France. Donc ça, c'est un point à mettre au tableau positif de la France. Même si, effectivement, on a du mal à voir comment on va réussir à trouver les 30 milliards, ce qui est le point négatif. Donc, effectivement, il essaye de jouer sur la stabilité, c'est-à-dire du pays, contre le fait que peut-être on a du mal à trouver de l'argent. Après, est-ce que c'est grave, finalement, si quelque chose se passe? Ça, c'est un autre sujet. Mais il est certain que aujourd'hui, on voit bien que l'avis des agences de notation a quand même un impact modéré sur la demande de la dette souveraine au niveau international.
Vous êtes d'accord, Isabelle, c'est le marché qui fait le taux auquel on prête à la France et pas les agences de notation?
Alors, moi, j'aurais déjà tendance à dire que c'est fort probable qu'on ait une dégradation de la notation de la France.
Par S&P.
Oui, enfin, par les agences de notation en général.
Fitch a bien dit hier qu'il n'y aurait pas de dégradation.
Oui, mais voilà. Ils étaient plus bas. Je crois qu'ils étaient plus bas, me semble-t-il. Oui. Hein, ils étaient plus bas que les autres agences de notation. Donc, moi, je pense que c'est assez probable, tout simplement parce qu'on est quand même le mauvais élève de la zone euro aujourd'hui. Hein. On est quand même parmi les pays qui font le plus fort déficit, avec ce dérapage qui était non anticipé. Et par ailleurs, si on regarde les pays qui ont à peu près les mêmes notations, qui ont la même notation que la France, ils n'ont pas forcément une situation budgétaire beaucoup plus saine. Donc il y a une forte probabilité, selon moi, peut-être que je me trompe.
Ça serait quoi le bulletin de notes? Dégradation annoncée pour la France, a touché le fond, mais creuse encore
Et peut-être avec assortie d'une perspective négative. Voilà. Donc ça veut dire en attendant de voir ce qui va être fait du côté du gouvernement.
Est-ce que ça a toujours le même impact?
Le fait est, on a déjà été dégradé, on n'en avait pas vu beaucoup les effets sur les marchés. On voit bien que quand le Trésor arrive sur le marché, il y a un très fort appétit des investisseurs. Et effectivement, c'est finalement le marché qui fait le coût de la dette.
Mais à quoi servirait une dégradation? Que signifierait une dégradation de la note de la France? Ça signifierait que la France a un risque de faire défaut sur sa dette, ce qui est absurde. Elle n'a aucun risque. C'est-à-dire que la France n'a jamais fait défaut, ne fera jamais défaut. Et donc, dégrader la note, c'est quoi? C'est taper sur les doigts d'un mauvais élève?
C'est un signal.
Lui dire, fais mieux.
C'est un signal.
Mais est-ce que c'est utile alors que la dette française s'arrache et qu'il y a des multiples, je ne sais pas combien de fois elle est achetée levée de France Trésor? Ça n'a pas de sens. Donc je dis qu'il n'y en aura pas. Je dis qu'elle ne servirait à rien et donc que les agences n'ont aucun intérêt à aller disrupter ce marché, à aller instiller du doute, alors que déjà on se retrouve avec une BCE qui a des taux très élevés, qui gêne un peu tout le monde. Aller dégrader la France aujourd'hui serait un très mauvais signal pour l'économie européenne et pas pour l'économie française, qui n'en souffrira pas parce qu'elle n'en a jamais souffert.
Nathalie.
Oui, mais à l'inverse, juste à l'inverse, on va dire à ce moment-là, mais pourquoi les agences de notation protègent la France? Il faut transpariser ces notes. Il y a un certain nombre de critères et de paramètres. Si la France ne remplit pas ses critères et ses paramètres, elle est soumise à la même loi que les autres, avec une dégradation à la clé.
On regardera les agences de notation de 2008.
On voit bien que c'est un aiguillon parce qu'on a eu un peu un effet de panique du gouvernement. Il peut y avoir un effet d'aiguillon pour le gouvernement.
Qu'est-ce qu'elles peuvent faire les agences de notation quand on voit les niveaux de dette? J'aimerais qu'on parle rapidement de la dette américaine. Elle augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. Pour autant, les agences de notation ne sont pas en train de frapper à la porte.
Non. Alors ça, c'est un sujet effectivement qui... vous avez, les journaux financiers regorgent d'articles sur effectivement la dynamique de la dette américaine qui effectivement avec... vous avez encore eu Bloomberg qui est arrivé avec ses 1 million de projections. En fait, ils font tourner en boucle des modèles en changeant en permanence les variables et on peut arriver à des niveaux de dette de 140% d'ici 10 ans. C'est les projections à 10 ans. Et effectivement, on se demande and so what? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se produire si jamais ils vont dans cette direction?
Alors, il paraît que politiquement, ça commence à inquiéter aux États-Unis.
En effet, ça inquiète. Alors, c'est vrai qu'on a, en même temps, on se dit, étant donné qu'on a un Japon qui est depuis plus de 10 ans à 260%, on se dit, effectivement, après tout... Mais c'est le Japon et on se dit est-ce qu'on a envie d'être le Japon? Bon, les États-Unis n'ont pas forcément envie d'être le Japon et ils ne le sont pas non plus dans leurs caractéristiques. C'est-à-dire qu'effectivement, si le Japon est dans cet état, c'est aussi dû à une démographie, à un taux d'épargne extrêmement élevé qui est l'opposé des États-Unis. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas du tout des épargnants au sens japonais du terme. Ils aiment le risque, ils vont vers le risque. Alors effectivement, après, est-ce que à cause de cette dynamique dynamique de la dette, est-ce que les États-Unis vont perdre ce statut de référence de titres sans risque au niveau international? En fait, c'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut le remplacer? Eh bien, pour le moment, j'ai personne. Bien l'impression que non.
Et on parlera de la Chine tout à l'heure, voilà, justement, parce que avec Isabelle.
Exactement. Les pays asiatiques n'y sont pas. Nous, en Europe, on n'a pas de marché unique de la dette publique, donc on n'y est pas. Donc, effectivement, on peut se dire que finalement, ils ont de très, très beaux jours devant eux, puisqu'il n'y a personne pour les remplacer. Et tant qu'ils auront cette dynamique de croissance qu'ils ont, comment vous voulez le remplacer? Ben non, on ne le remplacera pas.
Il devint un l'œil qui brille, parce qu'évidemment, on parle du Japon et lui, il vend du thé. Alors,
ensemble. Mais pas beaucoup au Japon, justement.
Nous en vendons en France. Isabelle, sur la dette.
Oui, privilège exorbitant du dollar, donc capacité à se financer très, très, très facilement, un vrai appétit pour cet actif sans risque de référence qui n'a pas d'alternative à ce jour. Et puis, je rajouterais le fait que vous avez un acheteur en dernier ressort de dette publique américaine qui s'appelle la Fed. Et on l'a vu au cours de ces dernières années, comme ça a été le cas de la BCE. Donc ça veut dire qu'un État qui émet dans sa propre monnaie quelque part, on se dit qu'il y a peu de chances qu'il fasse défaut, puisqu'il peut toujours faire marcher la planche à billets pour acheter sa dette.
Mais je pense que c'est la même chose en France. En fait, vous parliez de panique du gouvernement tout à l'heure.
Tu parlais de fébrilité.
Alors, disons de fébrilité, mais certains dans les médias parlent de panique également. En fait, la fébrilité, elle est due, encore une fois, à un facteur politique. C'est qu'on a des élections européennes le 9 juin et qu'une dégradation avant le 9 juin nuirait certainement à la majorité présidentielle pour les élections européennes. Si les agences se déterminaient le 10 juin, je pense que la fébrilité serait bien moindre.
Ouais. En même temps, on a signé en France un règlement de copropriété avec le reste des pays membres de la zone euro sur notre discipline budgétaire. Et force est de constater qu'on n'est pas très discipliné depuis de très nombreuses...
C'est joli, le règlement de copropriété.
Voilà.
Le voisin qui fait du bruit, on est le voisin qui ne paye pas ses charges.
Voilà. Ceci dit, quand on regarde l'Italie, on peut se consoler, quoi. Ils sont assez
déficit. Oui, mais l'Italie a dégagé, dégagé pendant très longtemps des excédents primaires, hors intérêt.
Donc, allez, on marque une pause. On a pris du retard, mais je crois que ça fait partie de l'ADN de cette émission. Dans un instant, on va parler réindustrialisation. J'aimerais bien qu'on dise quelques mots du financement de l'éducation. Et puis, ce sera la carte blanche de nos trois invités. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.